Bonjour Yves Cantebord.
Bonjour.
Bonjour.
Merci d'avoir accepté invitation ce matin sur Sud Radio, lendemain de cette tribune qui a été beaucoup commentée, signée dans le JDD avec 72 autres chefs et patrons de la restauration. Vous parlez dans cette tribune de survie pour toute une filière. On en est là aujourd'hui ?
Oui, on en est là aujourd'hui parce qu'on se rend compte que voilà, ce problème sanitaire est grave et que c'est vrai que la première chose, c'est la santé publique et on peut comprendre tout ce que le gouvernement essaie de mettre en place pour sauver des vies, pour, je pense, donner la possibilité à nos soignants de travailler dans de meilleures conditions. Ça, il n'y a pas de souci. Mais nous, on est arrivé dans une situation aujourd'hui où on se retrouve vraiment, j'ai envie de vous dire, dans un cul-de-sac. Mmh. Voilà. Il n'y a pas une entreprise au monde où il n'y a pas d'entrée d'argent, il n'y a que des sorties. Donc, on ne peut pas durer comme ça, ça ne peut pas. Même si on essaie de survivre, on essaie de continuer à être debout, à continuer à ouvrir nos établissements pour donner de la joie au quartier et aux clients. Mais économiquement parlant,
c'est pas viable.
Plus du tout viable.
Pourtant, un certain nombre de mesures ont été prises justement pour aider les restaurateurs, les chefs. Ces mesures ne sont pas suffisantes finalement ?
Alors, la mesure principale qui est vraiment efficace, c'est le chômage partiel.
Ouais, c'est ça.
Bon, ça, c'est pour la sécurité de tous les employés. Qui a été prolongé, c'est pour la sécurité de tous les employés. Et ça, c'est fabuleux. Après, nous, le problème que nous avons aujourd'hui, la première chose, c'est les bailleurs. Alors, aujourd'hui, on continue à payer. On a déjà payé pendant nos fermetures nos bails à 100%. Et si j'ai envie de vous prendre un exemple. Si vous avez un appartement qu'on vous dit que vous devez aller dormir dehors, mais que vous devez continuer à payer le loyer, il y a une chose qui ne peut pas fonctionner. En plus que les bailleurs sont des personnes physiques comme nous, des gens qu'on connaît, et je peux comprendre aussi de leur côté qu'ils ont besoin de cet argent pour continuer à vivre. Donc là, il y a vraiment une équation à trouver avec le gouvernement pour que les uns et les autres ne soient pas lésés comme on est lésés en ce moment.
C'est-à-dire que vous attendez que l'État compense ou parce que sur les bailleurs, c'est quand même très difficile d'imposer justement
Aujourd'hui, je ne suis pas économiste, je suis cuisinier. Je ne suis pas capable de trouver la solution. Mais est-ce qu'il n'y a pas une solution à trois entre l'État, les bailleurs et nous pour trouver que chacun prenne une part pour arriver à continuer à résister. Après, les congés payés. Depuis le mois de mars, on a certains employés qui sont encore en chômage technique, malheureusement, mais c'est quand même pas dépendant de notre volonté. Et on a encore le compteur des congés payés qui tourne. Moi, j'ai 90 employés à 2,5 jours par mois. Ça commence à faire des sommes colossales que je vais avoir beaucoup de mal à être capable d'assumer. Alors, le gouvernement, c'est vrai, nous a mis le PGE, qui est une très, très bonne chose. Mais ce PGE, aujourd'hui, nous permet de survivre.
C'est le prêt garanti par l'État.
Ça nous permet aujourd'hui de continuer à payer en temps et en heure nos fournisseurs. Parce que c'est un château de cartes. Si nous, on commence à plus payer les gens qui sont au-dessus de nous, ça va être une catastrophe.
Il y a un effet cascade.
Il y a un effet cascade. Et on pensait pouvoir tenir un mois, deux mois, trois mois. On voit que cette crise se prolonge sur le temps, malheureusement, et qu'elle va durer au moins jusqu'au premier trimestre 2021. C'est pour ça qu'on tire le signal d'alarme. On a des collègues professionnels qui sont en totale dépression et on ne voudrait pas qu'il y ait des bêtises de fait. Et on ne voit pas autrement comment faire s'il n'y a pas à un moment donné. On gèle tout, on se dit il faut un confinement, pourquoi pas, mais qu'on gèle les entrées et les sorties de façon à ce que on est en hibernation, pourquoi pas.
Vous demandez aussi plus de visibilité, de clarté dans les décisions, d'être davantage associé, c'est ça. Vous avez eu l'impression, par exemple, sur le confinement, le premier confinement, ou sur ce couvre-feu qu'on vit actuellement, d'avoir appris ces mesures trop tard ?
Alors ça, c'est quelque chose qui est très difficile pour nous à supporter, même si je pense qu'eux aussi sont sans doute dans l'urgence, j'ai l'impression. Mais c'est vrai que de changer des règles tous les trois jours, c'est complètement, très compliqué, même vis-à-vis du personnel. Un jour, on va leur dire, on va faire comme ça. Le lendemain, les gars, on change tout, on fait ça. Et le temps d'adaptation, il n'y en a pas. Donc, c'est très, très difficile à essayer de trouver des solutions simplement pour survivre, se dire comment on fait. Et on est régulièrement mis devant le fait accompli à la dernière minute.
C'est pour ça, notamment, que vous demandez à être reçu à l'Élysée, justement.
On voudrait travailler main dans la main avec eux. Arriver à savoir comment ça va s'organiser, comment ça va se passer, qu'on puisse prendre des directives, de savoir où on va aller dans les mois à venir. Parce que s'il faut fermer, je le redis, s'ils nous disent « mieux vous fermer », moi je veux bien fermer, je veux bien fermer, mais il faut qu'on le sache, qu'on puisse s'organiser.
Un dernier mot sur les prochains jours qui vont être cruciaux. Bien sûr, on saura dans 7-10 jours à peu près si le couvre-feu a été efficace ou pas, avec ce risque de reconfinement, s'il y a un nouveau confinement qui s'achemine dans les prochains jours.
malheureusement, avec tous les chiffres qu'on voit passer dans ces derniers jours, on ne voit pas comment on ne va pas se reconfiner. Et vu les situations des pays un peu limitrophes, les pays européens qui prennent ces décisions-là, c'est vrai qu'on va vers ces décisions-là. Après, moi, la seule chose que j'aimerais, mais c'est toujours pareil, c'est que je pense quand même que le restaurant est au moins un dernier moment de détente, de bien-être, de convivialité, qui donne encore de la joie, qui donne du positif aux clients. Alors, je dis, j'espère qu'on va pouvoir résister. Voilà. Parce que ce qui s'est passé aussi, ou ce qui a été très très dur pour des professionnels, tous les gens qui ont signé et bien d'autres, c'est que je crois qu'on est des gens responsables, qu'on a respecté les normes sanitaires à la virgule près. Ouais. Et il y a bon nombre aussi de collègues à nous qui ne l'ont pas fait. Et on paie un peu les pots cassés de tout ça.
Il y a un sentiment d'injustice en tout cas là-dessus.
Oui, il y a un sentiment d'injustice. Et aussi, il y a un sentiment un peu d'incivisme d'une minorité de la population.
D'une minorité qui a un impact sur tous. Quoi. Merci beaucoup Yves Candebord, chef étoilé au Relais Saint-Germain à Paris. Bon courage bien sûr pour la suite.
Et on continue les coups de fil du matin avec Bernard Cohen-Haddad, qui est secrétaire général de la CPME, hein, la Confédération des Petites et Moyennes Entreprises Paris-Île-de-France, et avec qui on va évoquer le télétravail, Benjamin.
Mais oui, bonjour Bernard Cohen-Haddad.
Bonjour.
Bonjour Benjamin.
Merci d'être avec nous ce matin sur Sud Radio. Alors juste un mot avant de parler de télétravail, un mot sur cette première semaine de couvre-feu. Vous la redoutiez, c'est quoi le bilan actuellement que vous faites ?
Oui, on la redoute, effectivement. On la redoutait, on l'a appliqué et on considère que ça s'est pas trop mal passé pour l'ensemble de l'écosystème francilien et national. Je vous rappelle qu'en Île-de-France, on a 1 200 000 entreprises, donc 80% de services, mais quand même beaucoup de petits commerces. Par exemple, sur Paris, c'est 63 000 commerces. Donc, vous voyez que on est très impacté. Ceci étant, on s'aperçoit que le soir, il y a quand même beaucoup moins de circulation, mais qu'il y a un point noir, si vous me le permettez, c'est dans les transports entre 20h et 21h, où on a effectivement, nos salariés qui s'en vont ou qui rentrent après 21h. Et là, il y a beaucoup de risques parce que le métro ou les RER restent un lieu de confinement, il faut le dire. Et nous avons demandé jeudi dernier à la présidente de région de multiplier les wagons et les trains afin qu'il y ait plus de fluidité. C'est important. Le virus ne circule pas que dans les entreprises.
C'est important de le dire. Vous avez une réponse ? Parce qu'on nous dit qu'au niveau des transports en commun, c'est difficile de faire plus, notamment sur les rames de métro.
Écoutez, la
c'est
présidente déjà, de région...
Notamment sur la ligne 13, je pense.
La présidente de région avec laquelle nous étions en visio, bien entendu, jeudi, nous a assuré qu'elle ferait le maximum. Et puisque vous savez que c'est IDF Mobilité qui prendra ses décisions, c'est important de le dire. Mais aussi, il faut appeler à la responsabilisation de tous. Il y a plus de 10% de véhicules qui circulent en Île-de-France. C'est beaucoup et c'est plus de pollution.
Alors, on va parler du télétravail parce que on a des appels qui se multiplient. Le gouvernement, depuis le mois d'août déjà, Emmanuel Macron, qui il y a 10 jours, a encouragé fortement à travailler chez soi au moins 2 à 3 jours par semaine. On en est où aujourd'hui en ce qui concerne les petites et moyennes entreprises en Île-de-France ? On a repris le télétravail.
Aujourd'hui, si vous me l'appelez au national, il y a déjà une discussion entre l'État, les syndicats et les organisations patronales qui est en place et c'est important qu'elle continue. En Île-de-France, nous avons multiplié le travail déjà dès le mois de mai et aussi dès le 6 septembre avec la mise en place d'un protocole, vous savez, pour lisser déjà les horaires dès le matin d'arrivée dans les transports et puis la recommandation, parce que ce sont des recommandations, de rester chez soi 2 à 3 jours par semaine pour éviter la contamination dans les bureaux.
La difficulté... Pourtant, on a la DARES qui nous dit que le travail, c'est à peine 4% des salariés des petites entreprises.
Oui, mais c'est justement parce que toutes nos activités ne sont pas télétravaillables. Et c'est bien ça le problème. Quand vous êtes dans un restaurant, j'écoutais tout à l'heure notre grand chef étoilé, quand vous êtes y compris dans un métier de commerce, de vente face à face, vous ne pouvez pas télétravailler. Un exemple, sur les services, dans les métiers, ce qu'on appelle du service, seulement 30 à 40% des services d'Île-de-France sont télétravaillables. Donc vous voyez, c'est pas la solution miracle. Et puis, il faut le reconnaître, il y a aujourd'hui beaucoup de nos salariés, beaucoup de nos entrepreneurs qui ne sont pas encore formés au télétravail ou qui n'ont pas les logiciels pour. Je vous rappelle que le télétravail a été vécu de manière contrainte, par défaut, et nous n'avons pas eu encore le temps de digérer le télétravail et de l'apprécier. C'est important. Un dernier chiffre, si vous me permettez, c'est important. Ouais. 63% des travailleurs d'Île-de-France sont des primo-accédants au télétravail. Vous voyez qu'il a beaucoup de marge.
Bien sûr. Juste d'un mot, ça veut dire que le télétravail n'est pas la solution miracle pour freiner la circulation du virus, en fait, à vous entendre.
Écoutez, moi, je ne suis pas médecin, je ne suis pas professeur de médecine.
Mais disons que ça reste encore très minoritaire.
Ça reste minoritaire, il faut le développer. Et je peux vous assurer que nous le développons dès que c'est possible, quand c'est possible, sans avoir un problème avec les salariés qui le vivent mal, parce que tout le monde ne vit pas bien le télétravail. Ça a été rappelé par le président de la République et nous le voyons au quotidien dans nos entreprises où beaucoup de nos salariés, beaucoup de nos personnels ont du mal à rester chez eux en Île-de-France où nous vivons dans des petits logements où il y a surtout de l'exiguïté et où tout le monde n'a pas la capacité de s'isoler. Et puis, parfois, quand ce qu'on ne peut pas faire dans leur journée, on est obligé de le faire le soir. Donc, vous voyez, ce n'est pas non plus un remède miracle, mais il faut l'encourager. Il faut faire en sorte aujourd'hui qu'on soit moins nombreux dans les entreprises quand c'est possible.
Merci beaucoup, Bernard Coenada, d'avoir été avec nous ce matin. Je rappelle que vous êtes secrétaire général de la CPME Paris-Île-de-France. 7h21 sur Sud Radio. La suite, Judith.
Oui, ne bougez pas. On va revenir avec l'édito de Thierry Garrier, avec qui on va parler de la rentrée des classes du 2 novembre. À tout de suite.